Pour essayer de répondre à la commande qui m'a été gentiment adressée, je vais essayer de partager avec vous des résultats de deux recherches que nous avons entreprises ces dernières années. D'une part, sur une recherche évaluative sur les politiques de subvention des prix des accouchements au Burkina, et d'autre part, la question particulière de l'accès aux soins de ceux qui ne sont pas en mesure de payer lorsqu'il s'agit de politiques publiques où on demande aux personnes de payer. Donc je vais centrer ma présentation, non pas au niveau des effets globaux, comme l'a présenté Séni tout de suite, mais essayer de faire une analyse de ce que les économistes appellent la distribution des bénéfices entre les sous-groupes de la population. Et dans un deuxième temps, je m'intéresserai en particulier à ce sous-groupe très particulier des plus pauvres de ce qu'on appelle les indigents. En préambule, j'aimerais rappeler ici trois rapports. Le premier en haut à droite, c'est un rapport signé par toutes les agences des Nations Unies, ainsi que par le président du Sénégal, le président de la France, qui rappelle l'importance, le besoin de supprimer le paiement au point de service. Toutes les connaissances scientifiques sont aujourd'hui claires à cet égard, et donc tous les décideurs politiques et publics ont réclamé cette suppression du paiement au point de service, ce que l'Union africaine a réclamé cet été à Kampala, ce que le rapport de l'OMS vient de sortir il y a quelques semaines, rappelle également ce besoin de supprimer le paiement au point de service, qui est la modalité de financement la plus inéquitable qu'il soit. Au Burkina, à partir de 2004-2005, ils ont planifié une politique qui a démarré fin 2006 et début 2007, qui visait la réduction de la mortalité maternelle et néonatale à travers, et là je cite le document de politique, la réduction des coûts financiers au point de service. Mais le Burkina et les décideurs du Burkina ont une croyance encore relativement idéologique, dans le sens où ils refusent la subvention totale et pensent qu'il est bien que les populations participent. Ce fameux discours de la participation aux frais financiers. Et donc, ils n'ont pas décidé de supprimer à 100%, mais de supprimer à 80%. Donc, un accouchement normal au Burkina a été estimé par les techniciens du ministère à 4500 francs. L'État subventionne sur budget national et non pas sur budget de partenaires au développement, sur budget national 80%. Donc l'État donne 3600 francs à chaque formation sanitaire et la femme contribue à hauteur de 900 francs pour un accouchement autocyclique. Mais évidemment, les décideurs ont bien compris qu'il y avait une barrière financière pour les populations les plus pauvres qui ne sont pas en mesure de payer les 900 francs. Et la politique nationale a également décidé de subventionner à 100% l'accouchement pour les femmes indigentes, donc 20% de la population des femmes qui accouchent en centre de santé sont censées avoir un accès gratuit au point de service pour ces populations. Quand je dis gratuit, c'est un abus de langage. Il y a évidemment l'État qui rembourse les formations sanitaires derrière. Donc l'idée de l'analyse ici est d'essayer de comprendre ces deux éléments-là. Quand on regarde le taux d'accouchement assisté global sur une série temporelle relativement longue au Burkina, on se rend compte que lorsque la politique démarre en 2007, on ne voit pas une tendance très très forte, à un changement particulier lorsqu'on regarde l'ensemble de la tendance au-delà de deux points avant-après. C'est important de regarder les tendances. Mais si on regarde le taux d'accroissement annuel, donc d'une année à l'autre du taux d'accouchement, vous voyez qu'en 2007, première année de la politique, il semble se passer quelque chose. Dans une recherche que nous avons entreprise à Nouna, dans un autre district, dont celui je vais vous parler maintenant, nous avons montré avec des données populationnelles et non pas des données de centres de santé, grâce à un observatoire démographique, nous avons montré qu'il y a une tendance à la réduction des inégalités d'utilisation des services entre le quintile le plus élevé et le quintile inférieur. Ici, vous voyez entre 2005 et 2008 la réduction de l'écart qui existait entre l'utilisation des accouchements assistés dans les formations sanitaires entre les plus pauvres et les plus riches dans ce district-là. Ça, c'est le contexte. Alors, la recherche dont je vais vous parler ici vise essentiellement à vous montrer un ensemble de données sur la distribution de ces effets entre les sous-groupes de la population organisés par quintile. Je vais aller très vite sur la méthode. L'idée, c'est de dire que il y a eu un projet que vous connaissez tous, Impact, qui a fait des analyses et des évaluations en 2006 dans un district sanitaire du Burkina qui s'appelle Wargaï, qui a permis de collecter en population des données de dépenses d'accouchement auprès de toutes les femmes qui ont accouché dans le district en début 2006. Donc ce que nous avons fait avec Séni et son équipe, c'est que nous avons repris exactement la même méthodologie avec exactement les mêmes questionnaires que nous avons eu la chance d'avoir, et Impact a bien voulu nous partager ces données, ce qui n'est pas toujours le cas chez les chercheurs, et on a reposé exactement les mêmes questions en 2010 avec un échantillon qui se ressemblait, ce qui nous permet de comparer donc avant la politique, après la politique, au niveau des dépenses, notamment des dépenses médicales, donc des dépenses au point de service, autrement dit le ticket d'accouchement, les médicaments, le laboratoire, et des dépenses que je vais qualifier ici de non médicales, donc notamment les dépenses de transport, la nourriture ou les cadeaux. Il ne s'agit pas des cadeaux aux agents de santé, mais il s'agit des cadeaux aux accompagnants. Et donc on va comparer avant-après. Alors les résultats montrent en moyenne et en médiane une réduction très importante des dépenses médicales au point de service. Vous voyez en médiane une réduction de 700 francs, de 77%, qui passe donc de peu plus de 5000 francs à 2000 francs par personne en moyenne dans ces districts-là. Il existe cependant ce qu'on appelle l'hétérogénéité. Vous voyez ici, chaque barre bleue correspond à un centre de santé. Et vous voyez que si la moyenne est à 2000, il y a des centres de santé où les femmes déclarent payer beaucoup plus que 2000 et d'autres centres de santé où les femmes déclarent payer beaucoup moins. Donc évidemment, c'est une moyenne, ça cache des disparités. Mais ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est également que normalement, les femmes devraient payer 900 francs, ce fameux forfait. Or, elles déclarent payer 2000. C'est ce qu'on appelle dans le langage des politiques publiques l'implementation gap. C'est cet écart qui existe entre ce que les femmes devraient payer et ce que les femmes payent réellement. Nous sommes en train de démarrer une recherche d'ordre qualitatif pour essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre avec les agents de santé et avec les populations et les femmes qui ont payé, qu'est-ce qui explique cet écart que nous avons retrouvé dans 3 autres districts du pays. Et donc ce n'est pas un effet lié à l'étude, c'est vraiment une situation qui existe dans tous les districts. En tout cas, dans les 3 districts, nous avons fait le même genre d'études. Au niveau des dépenses non médicales, là, vous voyez, en revanche, évidemment, puisque la subvention ne jouait pas là-dessus, il n'y a pas fondamentalement de changement entre 2006 et 2010. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'utilisation, la distribution des bénéfices entre les sous-groupes. Alors, en bas, on a donc réparti la population en 5 quintiles de richesse. Et vous voyez, donc, le premier quintile à gauche, ce sont les plus pauvres. Le cinquième quintile à droite, ce sont les moins pauvres. Et vous voyez ici l'utilisation des services, donc la part que chacune de ces 5 catégories a dans l'utilisation. Et vous voyez que globalement, entre 2006 et 2010, rien n'a changé et que globalement, il existe une égalité d'utilisation entre les sous-groupes de la population. Entre 2006, que vous soyez riche ou pauvre, vous utilisez de la même manière les services de santé dans ce district-là pour accoucher dans ce district en 2006 et en 2010. Ça, ce sont l'utilisation réelle. Maintenant, on a essayé de prendre en compte les besoins. Évidemment, quand on s'intéresse à la question de l'équité, notamment de l'équité verticale, autrement dit que les besoins sont en fonction, que l'utilisation soit en fonction des besoins, donc à besoin supérieur, vous devez avoir une utilisation supérieure, on a essayé de regarder, est-ce qu'il y a une différence entre ces catégories-là? Ici, les besoins sont pris en compte en fonction du nombre de naissances. Les plus pauvres, vous le savez, font souvent plus d'enfants que les plus riches, et donc lorsqu'on prend en compte le besoin, là, qui est celui de la naissance, vous voyez à droite que les plus riches utilisent proportionnellement à leurs besoins beaucoup plus les centres de santé que les plus pauvres. D'accord ? Donc ça, c'est sur l'utilisation. Maintenant, l'explication de l'équité verticale étant faite, je passe directement aux dépenses. Je ne reviens pas sur la pédagogie de l'approche. Et vous voyez ici les dépenses entre 2006 et 2010. Et vous voyez que globalement, première chose, évidemment, comme tout à l'heure, le quintile supérieur a des dépenses plus importantes par rapport à ce besoin que le quintile inférieur. En revanche, ce qu'il faut remarquer et qui est, je dirais, remarquable, c'est qu'il y a une réduction chez les 2 quintiles les plus pauvres de la proportion par rapport aux besoins, alors que chez les quintiles les plus élevés, il y a une augmentation entre 2006 et 2010. Il y a un vrai effet redistributif au niveau des dépenses médicales au point de service entre les riches et les pauvres. Je vais vous montrer cet écart d'une autre manière pour que ça soit plus compréhensible. Et les économistes aiment bien ce gradient. Et je dirais que ça, pour eux, ça serait fondamentalement très beau. La séduction, pour reprendre le terme de Fatoumata, pour eux, serait ici formidable. C'est que vous voyez la belle redistribution qui existe entre les riches et les pauvres, où l'écart, la réduction de l'écart entre les dépenses et les besoins est plus importante chez les pauvres et bien moins importante chez les riches à droite. Donc on voit une redistribution parfaite de cette politique, ce qui est relativement exceptionnel. Maintenant, on s'est demandé également quelle est la proportion de femmes qui ne payent pas. puisque la politique souhaite exempter du paiement les plus pauvres. En 2006, seulement 3% de l'échantillon déclarait ne pas avoir payé. En 2010, on est à 7%, ce qui est assez exceptionnel. Nous avons fait la même étude dans deux autres districts où on est arrivé à 0% de femmes qui déclaraient ne pas avoir payé. Dans ce district-là, et c'est l'objet de la deuxième recherche que je veux présenter, on est arrivé à 7% des femmes qui déclarent ne pas payer. Et vous voyez en rouge la distribution pour 2010 de les femmes qui ne payent pas. Et vous voyez également là un gradient assez intéressant au niveau de la progressivité, puisque vous voyez que c'est plus de 10% du quintile des plus pauvres qui déclarent ne pas payer, et c'est 4% du quintile des plus riches qui déclarent ne pas payer. Il y a un problème quand même, puisque les plus riches, 5% des plus riches déclarent ne pas payer, mais on voit quand même une certaine progressivité de la distribution de l'exemption totale entre les riches et les pauvres. L'une des explications à cette problématique de la difficulté de prendre en charge les plus pauvres, ce quintile des plus pauvres, c'est le fait que finalement la question de l'indigence est peu connue. Elle est connue, mais absolument pas étudiée et absolument pas intéressante pour les décideurs. Une évaluation qui vient d'être réalisée du PNDS, du Programme National de Développement Sanitaire 2001-2010, l'atteste de manière assez claire, dans le sens où personne se préoccupe réellement de la question des indigents et des plus pauvres. Alors que dans la politique de subvention des accouchements, il est clairement indiqué à ceux qui ont la chance d'avoir eu le document de politique que on est capable de donner un statut d'indigent et donc d'exempter du paiement un certain nombre de femmes dans les centres de santé à partir de deux situations particulières, soit ceux qui sont reconnus par la loi, ces fameux services sociaux, mais qui n'existent pas en dehors des villes de district, donc finalement qui ne couvrent pas 80% de la population, ou alors d'être reconnus par la communauté. Donc l'idée ici était de faire une recherche-action qui visait à réfléchir à la manière dont on pouvait sélectionner des indigents dans une perspective de recherche-action avec et pour les communautés. C'est l'objectif de la deuxième partie de ma présentation qui va vous retracer un travail qu'on a mené depuis un peu plus de 3 ans dans ce même district qui visait à tester la faisabilité d'un processus communautaire de sélection des indigents. Et donc nous avons fait une analyse tant qualitative que quantitative pour documenter tant le processus de mise en œuvre qui prend en compte le contexte dont on a parlé beaucoup ce matin, que son efficacité, sa capacité à changer des choses pour les populations qui participent à ce processus. Pour faire court, il y a 3 types d'interventions qui avaient été menées dans ce district qui visaient à exempter du paiement un certain nombre de personnes. L'intervention A est une intervention classique ministérielle de la direction de la santé de la famille grâce à des financements PTE de l'époque qui visaient à distribuer des médicaments à tous les districts en disant « c'est pour les indigents » et on leur donnait pas plus d'informations que ça, voilà des médicaments pour les indigents. La deuxième intervention est cette intervention communautaire qui a été développée dans ce district de Wargaï, dans un premier temps dans la moitié des centres de santé, dans un deuxième temps, on vient de passer à l'échelle à l'ensemble du district, et il y a 2 autres districts du pays qui viennent de le tester également à l'échelle du district, et 2 autres districts du Niger également, qui est en train de le mettre en place. Comment ça fonctionne? L'idée est partie de 2 principes. 1, le discours de qui est indigent, qui l'est pas, est souvent un faux problème. En fait, dans les villages, je ne parle pas de la ville, mais je parle des villages, tout le monde se connaît, tout le monde est capable d'identifier qui est indigent, qui l'est pas. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion est, oui, qui est indigent, qui l'est pas, mais après, il faut payer pour les indigents. 2 choses. 1, cette politique nationale financée par le budget de l'État n'a pas de problème d'argent, donc il y a l'argent pour payer pour les indigents, première chose. 2e chose, depuis 20 ans qu'on fait payer les riches dans les centres de santé grâce à l'initiative de Bamako, les centres de santé ont économisé, ont thésaurisé des millions qui existent dans les centres de santé. Au Burkina, on a entre 2 et 3 millions dans les centres de santé, en banque, que les populations ne touchent pas depuis 10 ans. Et donc l'idée était de dire, faisons une intervention pérenne, où la prise en charge des indigents fera en sorte que les communautés décident de qui est indigent, qui ne l'est pas, et qu'elles financent elles-mêmes sur la base de ce financement endogène, les plus pauvres. Donc dans chaque village ont été mis en place des comités de sélection villageois des indigents qui ont décidé de qui allait être indigent, qui ne l'était pas. Et à partir de là, avec les services de l'action sociale et les services du ministère, chaque indigent a reçu une carte officielle d'indigent qui lui permet d'avoir un accès sans paiement au point de service dans le district sanitaire. Évidemment, c'était une démarche participative, communautaire, qui a mis beaucoup de temps. Et l'idée n'était pas de partir sur des critères, puisque tout le monde veut des critères depuis 20 ans, mais personne n'en a trouvé. L'idée est de partir d'une définition que les anthropologues vont appeler démique, où les populations décidaient de qui était indigent, qui n'était pas. La définition que les populations ont décidé de l'indigence est celle-ci, une personne extrêmement démunie, socialement et économiquement, incapable de se prendre en charge et sans soutien endogène ou exogène. Ces définitions ont été traduites dans les langues locales et il y a eu une utilisation dans différents sites et dans ce district de Wargai qui est chez les Yana, un sous-groupe des Mossi, et puis ça a été également fait à Dori avec beaucoup de, où les Peuls sont assez présents. Il y a eu une troisième intervention dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, qui était une intervention sur la base de critères. Les infirmiers ont toujours réclamé des critères pour sélectionner des indigents. Évidemment, on leur a dit d'accord, alors on va vous donner des critères et puis on va voir ce que ça se passe. Sur la base de la sélection communautaire des indigents, il y a eu une sélection des critères. J'ai pas le temps ici de vous rappeler le processus, mais en tout cas, on a avec les équipes de district, défini une liste de 20 critères qui permettaient de sélectionner les indigents dans les centres de santé. Donc la moitié des autres centres de santé où on a fait l'expérience, et chaque infirmier avait donc cette liste de critères. Et à chaque fois qu'une personne venait au centre qui ne pouvait pas payer, il pouvait cocher, et puis s'il avait plus de 10 points sur 20, il avait une exemption. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'après 18 mois d'intervention, cette liste de critères a été utilisée par les infirmiers 0,007% des consultations. Donc globalement, les infirmiers n'ont jamais utilisé cette liste de critères et ont rapidement demandé à ce que l'approche communautaire soit passée à l'échelle, y compris dans leur centre de santé, parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait et que ça leur permettait aussi de se dédouaner de cette sélection-là. Je vais simplement ici rapidement vous dire les résultats de l'analyse des processus que nous avons essayé de faire sur ces trois interventions qui montraient que globalement, évidemment, elles répondent toutes à un besoin, que le financement endogène est une force de l'approche communautaire, que l'approche communautaire permet également de faire ce qu'on appelle une pré-identification, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils ont la capacité de venir au centre parce qu'on leur a dit que maintenant c'était gratuit pour eux, contrairement aux autres processus où si vous ne dites pas aux gens, ils vont évidemment jamais venir, que l'approche a été participative et que c'était une grande force et que les bénéficiaires étaient évidemment au courant. En revanche, il y a eu parfois l'interférence des agents de santé qui, par peur d'être submergés, comme les gens disent souvent, par les indigents, ont essayé d'intervenir auprès des comités de gestion qui validaient les listes, mais c'était relativement éphémère. Et les comités de gestion ont parfois freiné beaucoup l'utilisation de la liste des indigents, puisqu'on est dans un cadre de financement endogène, évidemment. Ils ont un intérêt financier à ce qu'on prenne en charge le moins de gens possible. Je vais vous montrer les résultats tout à l'heure, y compris les agents de santé, puisque vous savez, ou si vous ne savez pas, au Burkina, les agents de santé ont un droit officiel de 20% de ristourne sur la vente des consultations. Et donc, évidemment, moins vous avez de consultations, moins vous avez une ristourne à la fin du mois. Alors, on essaie d'évaluer l'efficacité de ce processus. Alors, l'efficacité, on l'a définie autour de ces deux points. Pour nous, l'efficacité d'un processus de ciblage des indigents, de sélection des indigents, c'est de limiter les biais d'inclusion, autrement dit, ne pas sélectionner des gens qui ne sont pas indigents, et de minimiser également les biais d'exclusion, ne pas oublier de sélectionner des personnes qui auraient dû être sélectionnées. Et évidemment, personne n'a de définition de ce que c'est qu'un indigent. Donc vous ne pouvez pas comparer, et on va certainement en discuter pendant 3 heures tout à l'heure, personne n'aura la même définition de l'indigence. Alors évidemment, pour faire une évaluation comme ça, on ne savait pas non plus comment le faire. Donc on a fait ça sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est sur l'échelle de pauvreté économique, la pauvreté telle que mesurée au Burkina, qui en 2003, et on a évidemment ajusté pour le moment de l'évaluation, disait que 46% de la population vit avec moins de 83 000 francs par personne et par an. 83 000 francs par personne et par an, c'est l'équivalent de 250 francs par jour. D'accord ? Mais ils ont également calculé une extrême pauvreté qui correspond à peu près à 9% de la population. Donc c'est notre, les épidémiologues appellent ça le gold standard. C'est avec ça qu'on va comparer, mais on va essayer de comparer avec d'autres choses. Quand on regarde ici, à gauche, ce sont les indigents qui ont été sélectionnés par les infirmiers et ensuite les indigents sélectionnés par la communauté. Et vous voyez que 66% des indigents se trouvent sous la ligne de pauvreté. Quand on compare ça à la pauvreté, à la proportion de la population au Burkina qui est sous la ligne de pauvreté, qui est, elle, de 46%. Donc vous voyez que proportionnellement, les communautés ont sélectionné des gens qui sont plus pauvres globalement, légèrement plus pauvres globalement que la population rurale nationale. Maintenant, on peut regarder ça par rapport à l'extrême pauvreté, ce fameux 46 000 francs, et vous voyez que là, l'écart est encore plus important. 35% de la population des indigents se retrouve sous la ligne d'extrême pauvreté, comparativement à 9% à l'échelle nationale. Maintenant, on a essayé de regarder sur d'autres indicateurs que la pauvreté économique, évidemment, et on se rend compte, je vous passe les chiffres, excusez-moi, mais je pense que c'était plus simple d'aller plus vite. Si vous voulez des chiffres, je vais vous en donner avec plaisir. On voit que les indigents qui ont été sélectionnés par les comités de gestion ont beaucoup moins de possessions d'avoir que les indigents sélectionnés par les infirmiers et qui sont socialement beaucoup plus vulnérables. De même, puisqu'il y avait deux modes de sélection, en fait, je suis allé un peu vite, c'est que dans les villages, les comités de sélection faisaient une première liste d'indigents, et comme les comités de gestion, les COGES, doivent financer ce paiement, les COGES ont validé la liste des indigents. Évidemment, on est obligé d'être dans ce processus. Et là, on se rend compte qu'il y avait un écart entre le nombre d'indigents sélectionnés dans les villages et le nombre d'indigents finalement retenus par les comités de gestion. Et au final, on se rend compte que les comités de gestion ont retenu des gens qui étaient dans des critères économiques déterminants et qui avaient une capacité contributive bien plus faible que les autres. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a de très faibles erreurs d'inclusion. Que ce soit ici, j'ai mis les statistiques de Wargaï, ce district de Wargaï, mais également à Dori, dans le Sahel du Burkina. On voit qu'on a sélectionné très peu de non-pauvres. Autrement dit, ce processus communautaire est efficace dans le sens où il est capable de sélectionner des gens qui sont vraiment pauvres, dans le sens où il a exclu beaucoup des non-pauvres. Donc ils n'ont pas sélectionné des gens qui n'auraient pas dû être sélectionnés. Vous voyez, 0,17% ou 0,20% si on prend les extrêmement pauvres. En revanche, la couverture, autrement dit la proportion de pauvres ou d'extrêmement pauvres qui auraient dû être sélectionnés est très très faible. On est à moins de 1% de la population d'extrêmement pauvres qui a été déclarée indigent par la communauté. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, ça peut être tout simplement la perspective communautaire de ce que c'est que l'indigence. Dans des contextes de pauvreté extrême, peut-être que l'indigence est 1%, et pourquoi pas, je ne sais pas. La deuxième réflexion, c'est qu'on est en plein conflit d'intérêts. Les communautés devant payer pour elles-mêmes, les comités de gestion devant payer pour les indigents, ils n'ont évidemment aucun intérêt à faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'indigents, et ils ont fait en sorte qu'il y en ait assez peu. Et ça s'est retrouvé dans deux districts très différents. La pertinence sociale, et ici je vous donne les résultats de Omar Samb, qui est un de mes étudiants en doctorat, qui est en train de faire sa thèse sur la pertinence sociale et la stigmatisation de ce genre de processus, montre que dans le contexte social et dans le Sahel et à Wargaï, cette initiative participative et communautaire a été très très bien acceptée, valorisée socialement, et que le statut d'indigent n'a posé aucun problème de stigmatisation dans ce contexte rural de Dori et de Seba. Et de Wargaï. En revanche, évidemment, il est très clair que ça ne répond qu'à une toute petite partie des besoins des indigents qui souvent vont nous dire « t'es gentil avec ta carte, là, mais le docteur il me dit de prendre la pilule en mangeant, mais j'ai rien à manger ». Donc ça a soulevé évidemment plein d'autres questions sur la prise en charge des indigents au-delà du système de santé et des déterminants sociaux de la santé. Alors je termine avec deux diapos. La première, ce sont les leçons apprises de ces expériences. La première, c'est la force de l'approche participative et communautaire, l'absence de stigmatisation que nous avons peu documentée et l'absence de besoin, certainement en zone rurale, de critères. Ça ne veut pas dire qu'en zone urbaine et dans les grands hôpitaux, il ne faille pas se poser cette question, mais en zone rurale, a priori, ce que nous avons montré montre que ce n'est pas nécessaire. En revanche, ce que l'expérience montre également, c'est que le financement endogène a de grandes limites. Ici, je vous ai mis la citation d'une personne d'un comité de gestion qui nous explique bien que si on disait que c'était un projet qui était venu avec l'argent et tout ça, que donc on n'allait même pas pouvoir faire nos photos. C'est les photos qu'on mettait sur les cartes d'indigents pour éviter que les gens trichent avec les cartes. Donc on avait mis des photos sur les cartes d'indigents. Et donc le gars nous dit, oui, si vous aviez dit que c'était un projet, on allait certainement trouver 40% d'indigents. Mais comme c'est nous qui allons payer, on a fait attention. Maintenant, quand on regarde les bénéfices annuels que font les centres de santé sur la base du système de recouvrement des coûts, on se rend compte que ces bénéfices annuels qui restent importants et qui reste à l'encontre de l'équité d'accès, c'est clair, ne permettrait quand même de prendre en charge, à l'échelle de la population du district, que 0,7% de la population. C'est pas beaucoup, c'est mieux que zéro, comme c'est le cas dans tous les districts de toute la sous-région, à ma connaissance, mais ça a quand même un certain nombre de limites, d'où l'intérêt d'une volonté politique du passage, d'une part, à l'échelle de cette expérience, et d'autre part, de la volonté de prendre en compte ce sort de travaux pour que les femmes qui ne devraient pas payer pour l'accouchement, puisque c'est financé sur budget de l'État sans aucun problème de financement, il devrait y avoir, selon nous, une volonté politique plus claire à l'échelle nationale pour qu'ils puissent dire, ben voilà, à partir de demain, c'est comme ça qu'il faut faire pour que vous puissiez avoir un accès aux soins. Et si on se base sur une exemption du paiement pour les indigents, si on se base sur un chiffre, on va dire, allez, conservateur de 9%, qui est la population d'extrêmement pauvre, si on calcule l'utilisation des services chez les indigents, qui est de l'ordre de 3 consultations par an, puisque c'est exempté pour eux, ça représenterait à peu près 5 milliards par an, donc moins de 1% du budget national. Donc là, on est également derrière la question de la volonté politique. Alors en conclusion, nos travaux ont montré que les effets positifs de la politique de subvention des accouchements sur la réduction des dépenses médicales et de la distribution des bénéfices entre les sous-groupes, ce qui est, je pense, très important. Deux, contrairement à l'hypothèse d'équité inverse en santé publique qui dit que souvent, lorsque vous mettez en place une intervention de santé publique, ce sont les moins pauvres qui en bénéficient d'abord que les pauvres. Ici, nous avons montré qu'il n'y a pas eu d'effet négatif sur l'égalité d'utilisation. Et dans l'autre district de Nouna, au contraire, il y a eu un effet positif sur les inégalités. Donc, a priori, ça se passe plutôt bien. Que la subvention des accouchements est évidemment nécessaire, mais évidemment, encore une fois, pas suffisante. Non seulement on a parlé de la qualité des soins, mais qu'il y a des fardeaux importants sur les dépenses non médicales et qu'aujourd'hui, le forfait et le forfait de 900 francs devraient être véritablement appliqués pour éviter que les femmes payent deux fois plus qu'elles ne devraient payer, que la prise en charge des indigents devrait se mettre en place. En attendant, le président, comme dirait Alain, très très démocratiquement élu du Burkina, a décrété et décidé il n'y a pas très longtemps qu'il allait supprimer et rendre les accouchements totalement gratuits. Il ne l'a pas fait, mais il l'a déclaré. Et évidemment, ma conclusion sera caduque quand il va le dire, mais sur le forfait, mais pas sur le reste. Voilà, alors je vous ai mis ici, si vous intéresse, quelques documents qui parlent de ces questions-là. J'en ai pas pour tout le monde, mais ceux qui sont intéressés par ces enjeux, je vous ai amené quelques documents autour de ça et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé avec moi là-dessus.
Merci, docteur Valérie.